Avant d'aborder le 19e siècle, abordons plutôt le 17e siècle, le siècle de création de l'Académie française, qui aura donc pour objet de veiller sur la langue française et la bonne langue française et ses usages. Jusqu'à présent, l'orthographe reste une discipline très floue. Quand invente-t-on la faute d'orthographe ?
Alors, bon, l'Académie, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, les dictionnaires de l'Académie ont été très riches dans ce domaine. Ils montrent un important travail sur la langue, un important travail aussi sur la forme. Et au fur et à mesure, ces dictionnaires font un certain nombre de modifications de l'orthographe. Entre autres, en 1740, il y a de multiples modifications sur l'orthographe du dictionnaire précédent. Et je crois qu'il y a presque un tiers des mots qui ont été transformés. Donc là, au XVIIIe siècle, il y a d'ailleurs eu 4 éditions du dictionnaire de l'Académie, il y a vraiment tout un travail sur la langue, tout un travail sur la forme. Alors, on n'a peut-être pas encore, la notion de faute d'orthographe, parce qu'on sent combien la langue est muable, et je pense que c'est au XIXe siècle qu'apparaît surtout cette notion de faute d'orthographe, qui est quelque chose qui est, j'allais dire, presque une spécificité très française. Au XVIe siècle, par exemple, la notion de faute n'existe pas, puisque se constitue certes une orthographe, mais il y a beaucoup de systèmes individuels. Et au XVIIIe siècle, également, avec cette sorte de... Enfin, je pense, cette succession de dictionnaires qui font de nombreuses modifications, je ne suis pas sûre que la notion de faute puisse exister. Mais je ne saurais pas vous dire à quel moment interviennent vraiment cette notion de faute d'orthographe. Mais ce serait intéressant.
Donc nous sommes maintenant au XVIIIe siècle, un siècle des encyclopédistes. Oui. Où en est-on de l'histoire du dictionnaire de la langue française à la veille de la Révolution française ?
Bien, à la veille de la Révolution française, il y a d'ailleurs une édition du dictionnaire qui apparaît, enfin il y a une édition qui va paraître en 1798, qui a été préparée par des académiciens et qui va fournir d'ailleurs, et c'est tout à fait intéressant, c'est une très belle édition cette édition, même si l'Académie l'a renié, elle fournit un supplément avec des mots nouveaux en usage depuis la Révolution. Et on a comme ceci 300 mots, je crois, nouveaux qui apparaissent et qui sont du type correctionnel, département, grandes écoles. Enfin, il y a toute une série révolution, enfin, certains termes à partir de révolution, des dérivés de révolution. Et c'est un ouvrage très, très riche que ce dictionnaire.
La dictée de Mérimée. Pour parler sans ambiguïté, virgule, ce dîner à Sainte Adresse, virgule, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, virgule, fut un vrai guépier. Point. Quel que soit, virgule, quelque exigu qu'ait pu paraître, virgule, à côté de la somme due, virgule, les arts qu'était censé avoir donné à main et main fusillée, subtile, la douairière ainsi que le marguillier, virgule, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusiliers jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée, virgule, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leurs coreligionnaires. Point. Quoi qu'il en soit, virgule, c'est bien à tort que la douairière, virgule, par un contresens exorbitant, virgule, s'est laissé entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant Marguillet sur son omoplate vieillie. Point. Deux alvéoles furent brisées. Virgule. Une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie, et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Point. Par saint Hippolyte, quelle hémorragie ! S'écria ce bélitre. Point d'exclamation. À cet événement, virgule, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, virgule, il l'a poursuivi dans l'église tout entière. Point.
Nous sommes maintenant au château de Compiègne, où nous avons rejoint Elisabeth Côte dans les appartements impériaux. Elisabeth Côte, pouvez-vous nous dire quelle place occupait le château de Compiègne dans l'emploi du temps de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie ?
Ah ben alors, le château occupait une place très importante parce que en fait, les souverains ont relancé la vie de cour à Compiègne sous le Second Empire. Ils se sont attachés à Compiègne, ils ont cherché à moderniser Compiègne et surtout, ils ont organisé les fameuses séries de Compiègne qui consistaient en fait à accueillir par rotation durant une semaine une centaine d'invités qui représentaient, si vous voulez, l'élite de monde intellectuel, littéraire, artistique, financier, politique, qui se retrouvaient ici pour vivre en quelque sorte durant 8 jours une vie de cour moderne.
Donc là, nous sommes dans la salle des cartes. C'est la salle où les invités étaient présentés
les uns aux autres, absolument, avant de passer dans la galerie de bal où avaient lieu les grands dîners d'apparat. Voilà. Mais en même temps, le salon des cartes avait un rôle éventuellement de lieu de divertissement, parce que comme vous pouvez le constater, il y avait des jeux miniatures, un piano mécanique est également installé, et éventuellement, on pouvait se mettre à danser. C'est la raison pour laquelle le salon n'a pas de tapis.
Donc on l'a bien compris, c'est un lieu de divertissement.
Oui.
Et la dictée, selon la légende, la dictée de Mérimée aurait été lue pour la première fois, en tout cas, peut-être dans cette salle, Elisabeth Côte.
Alors, peut-être ici, ou plus probablement, soit dans le salon de famille, qui était un salon, si vous voulez, de réception, ou dans le salon de musique, qui en fait est le salon où l'impératrice Eugénie avait l'habitude d'accueillir ses invités, les invités qu'elle considérait qu'elle voulait particulièrement honorer pour des thés. Mais alors, nous ne l'appelons pas le salon de thé, nous gardons le terme, la terminologie qui a été donnée au Premier Empire de salon de musique.
Nous allons nous rendre.
Alors, c'est une pièce extrêmement emblématique de la présence de l'impératrice Eugénie ici à Compiègne. Nous sommes en effet dans l'appartement de l'impératrice. Vous avez à droite toute l'enfilade des pièces successives qui lui sont affectées. Mais ici, nous sommes en quelque sorte dans l'une des dernières pièces de son appartement, dans ce salon qu'elle a voulu en quelque sorte décorer elle-même. Tout cela en mélangeant à la fois un goût oriental ou extrême oriental et tout en ne sacrifiant pas au confort moderne.
Si la dictée de Mérimée avait réellement été l'œuvre de Mérimée et si elle avait eu lieu dans ce salon,
oui.
Imaginons ça quelques instants, on y reviendra plus tard parce que c'est bien plus complexe, mais on peut quand même se poser la question, Mireille Huchon, quelle place occupait la dictée dans les divertissements de cour ?
Divertissement de cour ou divertissement de société ?
Oui, tout à fait.
Oui, je crois qu'il y a un certain nombre de dictées qui ont pu
avant
c'était
Dieu.
C'était un amusement commun.
Ça pouvait être un amusement, absolument. Alors c'était parfois non des dictées continues, mais plutôt des mots que l'on dictait, des mots qui posaient difficulté. Tandis que la dictée de Mérimée, telle qu'elle est traditionnellement fournie, enfin, dans ses différentes versions, il s'agit de textes continus.
Vous avez le texte sur vous, d'ailleurs, Mireille Huchon. Est-ce que vous pouvez nous en faire une lecture ?
Alors, je puis vous faire une lecture, tout d'abord, du texte qui est paru en 1868, en vous fournissant au fur et à mesure les difficultés ?
Oui.
Alors, quel que soit, quelque exigu que t'aient paru les arts, quelque exigu, quelque étant ici adverbe, donc ne va pas s'accorder, que t'aient paru les arts qu'étaient censés, avoir donné à main et main fusilier subtil la douairière et le marguillier, bien que lui ou elle soit censé les leur avoir refusés et s'en soit repenti, va-t'en les réclamer à telle ou telle brujolie, quoiqu'il ne te sied pas de dire qu'on les aurait suppléés par quelque autre motif. Alors, dans cette première version, il y a de nombreux problèmes qui sont liés aux accords du participe passé, également aux utilisations du type quelque, avec une très curieuse version, puisque c'est la version qui était parue dans le Figaro en mai 1868, où l'on voit des accords qui, dans la version telle qu'ils sont donnés, sont fautifs, puisque « art » est donné une fois masculin dans son accord au participe passé, et une autre fois au féminin. Et que d'autre part, on a, comme je l'ai lu tout à l'heure, bien que lui ou elle soit censé les leur avoir refusés, censé est écrit « et e », alors que c'est « lui » ou « elle », donc accord normalement au masculin, alors qu'un peu plus loin, on a « mais que, bien que lui ou elle soit censé les leur avoir refusé et s'en soit repenti », »,« repenti » est un « i ». Cette dictée qui est fournie là dans ce texte de 68, on nous dit que l'empereur n'aurait fait aucune faute, ce qui paraît curieux, et d'autre part, il s'agit, semble-t-il, d'un texte qui s'inscrit, on va dire, des recherches et dans d'un souci de réforme orthographique, donc on peut penser qu'il est plus ou moins controuvé. Mais il nous est fourni comme une phrase monstrueusement contournée, donc ce qui est intéressant à noter.
On peut se poser la question du pourquoi de l'intérêt de la cour de Napoléon III pour ces questions de langue française et d'orthographe.
Oui, alors, je le pense également, si vous voulez. Ça faisait partie des divertissements littéraires. Ici, pour animer la vie de cour, en fait, il était proposé aux invités de nombreuses activités, aussi bien des chasses, des promenades, des sorties en forêt jusque vers Pierrefonds, mais également, je dirais, des moments de lecture, hein, d'où l'installation de la bibliothèque des invités au second étage, qui est un endroit merveilleux du château de Compiègne, dans lequel les invités aimaient à venir se reposer et converser avec art et subtilité dans un coin agréable, particulièrement bien aménagé, avec un fumoir à proximité. Et je crois que, si vous voulez, le souci aussi bien de l'empereur que de l'impératrice était d'accueillir de façon la plus chaleureuse qui soit les invités ici à Compiègne et de leur proposer un grand nombre de divertissements. Et donc, si vous voulez, effectivement, les jeux de l'esprit, les divertissements littéraires faisaient partie de cette panoplie d'activités proposées.
Alors essayons de comprendre un petit peu pourquoi on a attribué ce texte, cette dictée à Mérimée, comment c'est devenu la légendaire dictée de Mérimée. On peut trouver plusieurs raisons à cette attribution. Tout d'abord les relations qu'il y ait Mérimée et l'impératrice Eugénie, Elisabeth Caude.
Alors, effectivement, Mérimée est un habitué de la famille de l'impératrice, puisqu'il connaît depuis 1830 la mère de l'impératrice, et que, en quelque sorte, parfois avec plaisir, plutôt parfois par, je dirais, affection vis-à-vis et dévouement vis-à-vis de l'impératrice, eh bien, c'est vrai, il vient ici à Compiègne, il fait partie des séries, pas systématiquement, mais très souvent, et il anime ses divertissements, si vous voulez. Il les anime en compagnie, par exemple, de Viollet-le-Duc. Il les anime avec, je le dirais encore, donc, habileté. Et je pense qu'en quelque sorte, il s'intitulait même, si je ne m'abuse, le fou de Sa Majesté l'Impératrice.
Et Mérimée est également académicien, Mireille Huchon, ce qui pourrait expliquer son intérêt pour l'orthographe et sa connaissance des débats orthographiques de l'époque.
Oui, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que... Mais alors là, ça nous reporterait aux années 1867-1868, à un moment où l'on nous dit néanmoins qu'il n'était pas venu dans le château.
Absolument, hein, c'est ça. Absolument.
Parce qu'il y a, à ce moment-là, vraiment un souci d'essayer de réformer l'orthographe. L'Académie a décidé de se remettre à une nouvelle édition de son dictionnaire d'usage. L'édition précédente datant de 1835. D'autre part, il y a un certain nombre de spécialistes qui souhaiteraient justement que l'on puisse avoir une orthographe plus simplifiée. Et entre autres, il y a Firmin Didot qui a écrit un ouvrage sur l'observation de l'orthographe. Donc, il y avait tout un débat sur la difficulté orthographique, sur la nécessité de simplifier également l'orthographe. Et c'est peut-être dans ce cadre, d'ailleurs, qu'a pu être créé ce premier texte que je lisais tout à l'heure, peut-être œuvre d'un académicien. Mais est-ce forcément
mérimé ?
On
a avancé également le nom de Sainte-Beuve.
Ce serait tout à fait possible. Il peut tout à fait s'agir d'un texte qui a circulé, visiblement, parce que il n'a pas seulement été dicté ici. On le voit très bien dans le texte de Larousse, qui en 1870 évoque également une autre lecture. On voit qu'il s'agit d'un texte qui a circulé et qu'on devait, comme une sorte de jeu, finalement, comme peut-être les dictées d'autres à la fin du XXe siècle ont pu circuler.
Puisque vous savez que la princesse Pauline de Metternich fait allusion à une dictée également à Fontainebleau. Donc, si vous voulez, c'est vrai que, comme le dit très exactement Mme Huchon, en fait, on est tout à fait dans les divertissements de la cour. Alors, en ce qui concerne Mérimée ou pas Mérimée, ce qui est certain, c'est qu'il a très probablement pu proposer un texte qui n'était peut-être pas un texte de sa main, si vous voulez, hein.
Est-ce que ces débats historiographiques des années 1860 sont suffisants pour expliquer la très grande postérité de cette dictée dite de Mérimée, puis très vite, on remet très vite en question la paternité de cette dictée?
Je crois qu'il y a toujours un goût du français, et c'est bien pour cela d'ailleurs qu'on n'est jamais arrivé à réformer l'orthographe. Il y a un goût des français pour la difficulté, on voit d'ailleurs tous les ouvrages sur les difficultés du français, et vraiment, je crois, un goût, une sorte de jeu aussi sur ces difficultés, et qui s'inscrit depuis très longtemps dans l'histoire de l'orthographe française.
Et quelles étaient les revendications des différents acteurs de ce débat? Situons-nous à la veille de cette dictée de Mérimée, donc dans les années 1860.
Eh bien, ce sont toujours les mêmes depuis le XVIe siècle, parce que c'est un débat qui est totalement récurrent, ce problème de l'orthographe. C'est que nous avons finalement hérité du latin un alphabet, qui correspondait finalement à la prononciation telle qu'on peut l'avoir en latin, mais nous avons acquis de nouveaux phonèmes. Le che, le je n'existait pas en latin, le ve n'existait pas en latin. Donc, on s'est retrouvé avec finalement un nombre très limité de lettres et qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il en est donc de la prononciation, d'où dès le XVIe siècle, certains ont dit on ne peut pas conserver une écriture qui soit aussi éloignée de la prononciation. Donc, c'est, comme je vous dis, un débat tout à fait récurrent, c'est de montrer les difficultés du français qui font que l'orthographe ne correspond pas à la prononciation, qu'il y a de nombreuses surcharges, donc il faudrait essayer de fournir une orthographe simplifiée. Entre autres, vous avez aussi un certain nombre d'irrégularités, un accent circonflexe qui se trouve sur certains mots du type crûment, mais qui ne se trouve pas dans d'autres, enfin... Donc il y a toute une série d'irrégularités qui sont sans cesse pointées et on s'est efforcé, les débats, si vous voulez, s'efforcent de faire en sorte que l'écriture soit plus simple et aussi tout ce qui concerne, et là déjà dès le XVIe siècle, Ronsard parlait de l'épouvantable crochet de Y, donc il ne souhaitait pas qu'il y ait de nouveau en Y, donc il y a une surcharge de l'orthographe, mais qui fait qu'il y a aussi un attachement, je crois, viscéral quasiment des Français à cette forme des mots, qui fait qu'il est, je crois qu'il ne sera jamais possible de réformer déformé cette orthographe, et on l'a bien vu là ces dernières années quand ont été fournis un certain nombre d'indications pour cette réforme.
Au XIXe siècle, Mireille Huchon, c'est aussi le moment où on dresse un répertoire des écrivains français, donc où on dresse un catalogue, si je puis dire, de la langue littéraire française de référence. Quel impact a ce travail de répertoriation ?
C'est un travail important aussi dans l'histoire de la langue, parce que l'on se met vraiment au XIXe siècle à faire une véritable histoire de la langue et voir dans son développement comment l'on passe des pratiques de Ronsard à Montaigne et ensuite ultérieurement. Donc il y a un souci de la grammaire historique ensuite qui s'est considérablement développée à cette époque-là. On se plaît également à faire des reconstitutions, disons, 16e-istes, et les contes drôlatiques de Balzac sont tout à fait intéressants à ce propos, tout en sachant que vraiment la langue du 16e vue par Balzac, c'est une série quand même de, j'allais pas dire de contresens, mais c'est une rêverie plutôt sur la graphie.
Un petit peu comme le Viol et le Duc qui restaure le château de Pierrefonds.
Absolument, les contes drôlatiques ou le château de Pierrefonds, je crois que ça obéit à ce même esprit, mais qui est aussi un esprit, peut-être qu'il y a des contresens, mais c'est aussi la manière de faire revivre un passé, et on ne peut que s'en réjouir également.
Et pour réconforter vos victimes, vous leur montrerez le classement qu'annonça Mérimée, une fois terminée la correction des augustes devoirs. Sa Majesté l'Empereur, 75 fautes. Sa Majesté l'Impératrice, 62. La Princesse de Metternich, 42. Monsieur Alexandre Dumas, de l'Académie française, 24. Le prince de Metternich, ambassadeur d'Autriche, 3. C'est alors qu'Alexandre Dumas, se tournant vers le prince de Metternich, lui demanda avec grâce « Quand allez-vous, prince, vous présenter à l'Académie pour nous apprendre l'orthographe ?»
Suite et fin demain de notre série dans la fabrique de l'histoire consacrée à l'histoire de l'orthographe et des modifications du français avec le débat historiographique. Comme à son habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Yaël Mandelbaum. Les archivinants étaient choisis par Jeannette Patierkowski. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter l'émission pendant un mois, la télécharger jusqu'à demain matin 9h et trouver également des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachan. La prise de son était assurée par Marcel Lebras, le mixage par Benjamin Vignal, les textes lus par Thibaut de Montalembert et Marie Briand et la réalisation.